Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Depuis l'annonce par Pékin, c'était il y a tout juste un an, du premier décès officiel du Covid-19, celui d'un homme qui faisait ses courses sur un marché de Wuhan, le virus a tué plus d'1 900 000 personnes sur la planète et ce matin, date de ce premier anniversaire, la Chine, qui cherche à tout prix à gommer son image d'épicentre de la pandémie, a dû reconnaître avoir enregistré son pire bilan depuis 5 mois. Et puis nous irons également au Royaume-Uni, où là-bas l'épidémie semble décidément hors de contrôle.
Comment relancer une diplomatie verte mise à l'arrêt par le Covid-19, Thomas?
C'est là tout l'objectif de la 4e édition du One Planet Summit organisée aujourd'hui à Paris.
Dans votre journal également, c'est encore et toujours en pleine pandémie que plusieurs syndicats de médecins hospitaliers appellent, eux, à une grève illimitée à partir d'aujourd'hui.
Oui, en cause la récente réforme du Ségur de la santé jugée désavantageuse. Nous serons en direct avec Anne-Geoffroy Vernet, présidente du syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes, réanimateurs élargis. Et enfin, à 10 jours de la fin tumultueuse de son mandat, l'administration du président sortant Donald Trump a décidé d'inscrire les rebelles houthis au Yémen, appuyés politiquement par l'Iran, sur la liste des groupes terroristes. Une décision qui fait déjà craindre aux organisations internationales une aggravation de la crise humanitaire dans le pays en guerre. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Attention, risque de déraison, il tire la sonnette d'alarme. C'est le sociologue Gérald Bronner qui sera notre invité à l'occasion de la parution de son nouvel essai « Apocalypse cognitive » sur le marché très concurrentiel de l'attention. Comment sauver notre temps de cerveau disponible? Nous tenterons de répondre à cette question dans une vingtaine de minutes.
Accusé d'avoir dissimulé l'apparition du nouveau coronavirus, la Chine pouvait-elle se permettre d'empêcher les scientifiques de l'OMS de venir enquêter sur les origines de la pandémie sans susciter la méfiance, voire la suspicion lors d'une rare critique de Pékin? Le patron de l'Organisation mondiale de la santé avait regretté la semaine dernière que ses équipes n'aient pas été autorisées à entrer dans le pays. Et ce matin, le ministère chinois des Affaires étrangères parle finalement de malentendu et assure que l'équipe d'experts internationaux entamera bel et bien sa mission ce jeudi. Quoi qu'il en soit, ce feu vert intervient donc 1 an jour pour jour après l'annonce du premier mort en Chine de ce qui n'était encore à l'époque qu'un mystérieux virus. À présent, les autorités n'ont de cesse de se vanter d'être parvenues à pratiquement éradiquer la maladie, sauf que le pays enregistre son bilan le plus grave depuis 5 mois, avec un peu plus d'une centaine de cas en 24 heures. Rien à voir évidemment avec les chiffres européens et américains. Reste que les nouveaux cas sont enregistrés aux portes de Pékin, d'où le branle-bas de combat dans la capitale chinoise qui a décidé de durcir ses mesures pour se protéger. C'est une correspondance signée Dominique André.
À 300 km de Pékin, 18 millions d'habitants sont en quarantaine avec l'interdiction de quitter leur domicile. Une deuxième campagne de dépistage va commencer. Les autoroutes qui relient cette province du Hebei à la capitale sont bloquées par la police. Rentrer dans Pékin est de plus en plus compliqué aussi pour les passagers arrivant de l'étranger. Ils sont désormais soumis à 3 semaines de quarantaine et 5 tests de dépistage validés par 2 laboratoires différents. Il suffit d'un seul cas de Covid-19 dans l'avion pour que l'ensemble des passagers soient tous traités comme des cas contacts. Depuis ce matin, il faut présenter un QR code négatif sur son état de santé pour monter dans un taxi à Pékin. La capitale mène un combat intense, déclarent les autorités locales. Xu Retien, porte-parole de la ville de Pékin.
Actuellement, Pékin fait face à une rude épreuve. La prévention et le contrôle de l'épidémie sont plus difficiles et complexes. Nous ne pouvons pas nous relâcher un seul instant. Nous devons négliger aucune piste. Nous appliquons les mesures sans compromis pour garantir la sécurité de la capitale.
Pékin a annulé la foire du Nouvel An chinois, un événement très populaire qui doit fêter l'entrée dans l'année du buffle le 12 février. Les vacances scolaires ont été avancées par mesure de sécurité.
Et pendant ce temps, l'épidémie de Covid-19 accélère avec un bilan porté désormais à 20 000 morts en Belgique, 40 000 en Allemagne. L'Allemagne où la chancelière Angela Merkel prévient que le pire est encore à venir. Et que dire également du Royaume-Uni? Là-bas, le cap des 80 000 morts vient d'être franchi et la pandémie semble plus que jamais hors de contrôle. Toujours est-il que la campagne de vaccination a pris sur place une nouvelle ampleur aujourd'hui avec l'installation de 7 grands centres dans toute l'Angleterre, avec pour objectif que 15 millions de personnes aient reçu une dose d'ici la fin du mois. Mais sera-ce suffisant? Déjà, les scientifiques pressent le pouvoir de prendre des restrictions encore plus drastiques. C'est une correspondance à Londres signée Richard Place.
Le confinement dans sa version actuelle n'est pas suffisant. C'est en substance ce que les responsables médicaux disent au gouvernement. Les masques ne sont pas obligatoires à l'extérieur, les crèches restent ouvertes, les distances de sécurité ne sont pas respectées dans les supermarchés, il faut plus de contrôle et si nécessaire, plus de sanctions. Le médecin-chef pour l'Angleterre apparaît dans un clip depuis hier où il rappelle les règles de base. Le professeur Chris Whitty fait aussi le tour des médias aujourd'hui pour alerter sur la situation des hôpitaux.
The next few weeks are going to be...
Les prochaines semaines vont être les pires de cette pandémie pour nos services de santé. Ce que nous devons faire avant les effets du vaccin, ce qui va prendre plusieurs semaines, c'est redoubler d'efforts. C'est le problème de tout le monde. Le moindre contact qui n'est pas nécessaire avec quelqu'un est le maillon d'une chaîne de transmission qui mène à une personne vulnérable.
En avril dernier, lors du pic de la première vague, 18 000 patients Covid étaient hospitalisés en même temps. À ce jour, ils sont plus de 30 000. Les soignants savent mieux s'y prendre, ils disposent de plus de matériel adapté, mais la vague est trop haute et elle grossit chaque jour. En un mois, la variante britannique du virus a rendu la situation incontrôlable.
En France, 23 départements de l'Est et du Sud-Est sont désormais sous couvre-feu à 18h pour tenter d'endiguer la reprise de l'épidémie au grand dam des commerces alimentaires. Par ailleurs, une quarantaine de cas de contamination par le variant britannique ont pour l'heure été détectés dans l'Hexagone, à Marseille en particulier. La situation est jugée inquiétante et puis comme chaque semaine, tout le monde attend désormais le prochain point hebdomadaire du gouvernement jeudi dernier et sans prononcer le mot de reconfinement, le Premier ministre n'avait pas exclu d'aller encore plus loin et de prendre des mesures nationales supplémentaires. Et c'est donc en pleine pandémie que plusieurs syndicats de médecins hospitaliers appellent eux à une grève illimitée à partir d'aujourd'hui en cause la récente réforme du Ségur de la Santé jugée désavantageuse. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Anne-Geoffroy Vernet, présidente du syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes réanimateurs élargis, qui représente donc l'ensemble des praticiens hospitaliers. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Pour commencer, peut-être avez-vous des chiffres pour mesurer à quel point donc la grève est suivie aujourd'hui?
Alors j'aimerais tant pouvoir vous donner des chiffres, mais vous savez que nous n'avons pas accès à ces chiffres-là, puisque les directions ne nous les remontent pas de façon systématique. Moi, je n'ai toujours pas les miens et je ne les ai jamais. Les remontées que nous avons, par contre, c'est une mobilisation par tous les retours que nous avons, par les réseaux sociaux, par les mails, par les courriers, par nos enquêtes, dont je vous parlais juste après, d'une mobilisation qui est inédite. Alors, elle est inédite, pourquoi ? Parce que elle touche toutes les spécialités, alors que régulièrement, les spécialités qui sont le plus en grève sont les services à plateau technique, les blocs opératoires, les urgences. Et là, il y a vraiment des services qui ne sont jamais en grève, qui se sont mis en grève, et elle touche tous les âges. Alors, pourquoi cette histoire ? Et pour faire le lien avec ce que vous avez décrit sur la Chine, notre système d'hospitalier a été mis en tension pendant la crise sanitaire, et en fait, il est en tension depuis déjà bien plus avant que la crise sanitaire. Malgré cette tension, c'est-à-dire qu'on a une pénurie de médecins, de soignants, et qui fait qu'on travaille avec moins de moyens, qu'on voit soit plus de malades moins longtemps, soit on voit moins de malades et on prend pas en charge les patients de façon satisfaisante et on n'arrive plus à monter des projets d'équipe avec des équipes qui changent tout le temps et qui sont constituées pour bonne partie de remplaçants. Alors, il faut retenir les médecins à l'hôpital, il faut retenir les soignants, il faut retenir les médecins. Et une très bonne mesure a été prise, qui est une mesure Ma Santé 2022, qui était demandée par les syndicats depuis toujours, qui était de permettre aux jeunes, ceux qui rentrent dans la carrière, de rentrer sur des niveaux de rémunération correspondant enfin à leur degré d'études, c'est-à-dire 10 ou 11 ans d'études, à leur responsabilité, hein, puisqu'on a quand même des vies en main nuit et jour, et l'amplitude horaire du travail qu'ils fournissent, hein, on travaille près de 50 heures par jour, près de 50 heures par semaine au minimum. Donc cette mesure, elle était très bien et on avait demandé à ce moment-là qu'il y ait une compensation pour tous les praticiens hospitaliers qui sont investis dans l'hôpital public, qui sont restés malgré ce délitement dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une compensation équivalente pour l'ensemble des praticiens, ce qui revient en fait à récupérer cette accélération de carrière qui a été donnée aux jeunes et la donner à tous. Donc c'était une ligne à faire dans le Ségur. On nous avait laissé entendre que ça aurait lieu et puis finalement ça n'a jamais eu lieu. On arrive à une situation qui est abracadabrantesque. On a la coexistence de deux grilles d'ancienneté où les gens qui sont en fin de carrière en fait n'arriveront jamais en haut de l'échelle où ils arriveront à 67 ans, donc on finira jamais nos carrières. Ça concerne tous les PH, tous les praticiens hospitaliers qui ont été nommés depuis 35 ans, hein, jusqu'à 2020. On se retrouve avec des jeunes qui sont en milieu de carrière, qui sont très très tentés par le fait de quitter l'hôpital et qui le font, hein, de nombreux. On voit des collègues partir à 40, 45, 50, 55 ans ailleurs, qui n'ont quasiment rien gagné dans le Ségur et qui sont loin de cette accélération de carrière que nous voulions. Et alors, l'ironie, c'est les praticiens qui ont été nommés il y a 2 ou 3 ans, qui voient arriver des jeunes praticiens qui, eux, donc ont faim en ces mesures-là, et qui sont en fait des gens qu'ils ont formés, qui sont leurs anciens internes, et ces anciens internes se retrouvent avec une ancienneté plus importante et une rémunération plus importante.
Madame Geffroy-Vernet, on l'a compris, la réforme accélère au fond les carrières des nouveaux médecins, mais pas donc de ceux déjà en poste. En quoi cette réforme serait selon vous un symptôme peut-être de l'échec du Ségur de la Santé ?
Alors, c'est un échec du Ségur de la Santé dans le sens où le Ségur de la Santé n'a absolument rien modifié dans les établissements. On n'a pas vu du tout de raz-de-marée de gens venir. Il y a plein de choses qu'on avait demandé qui étaient communes à l'ensemble des praticiens hospitaliers et non pas sur certains praticiens et pas d'autres qui n'ont jamais été données. La déception qu'il y a eu, parce que le Ségur était censé quand même prendre en compte tout ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, et c'était le quoi qu'il en coûte de Monsieur Macron, et c'est les praticiens précieux dont a parlé Monsieur Véran en décembre. Ce Ségur n'a absolument pas répondu à l'investissement que les praticiens donnent depuis la crise sanitaire et même avant. Donc ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sur le classement, si on attendait au moins quelque chose qui soit égalitaire, et le Ségur crée une inégalité entre les praticiens, c'est quelque chose de jamais vu et d'intolérable.
Merci Anne Geffroy-Vernet, présidente, je le rappelle, donc du Syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes, réanimateurs élargis, d'avoir répondu à notre invitation. Comment contrôler l'extrême contagiosité du virus de la grippe aviaire en France ? Pour l'heure, les seules réponses apportées consistent dans l'extension de l'abattage massif des canards malades, mais aussi un dépeuplement préventif en amont du front du virus, ou quand face à l'ampleur et à la sévérité du phénomène, eh bien la batterie de mesures mises en place à la suite des crises précédentes dans les élevages comme dans les transports semble clairement dépasser. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, est en visite aujourd'hui à Auch, dans le Gers, où 6 foyers avérés ont été détectés sur un total de 180 en France.
12h43 sur France Culture, c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Après tant d'années, il a décidé de parler et même de saisir la justice. C'était le 20 février 2019. Ainsi que le raconte le journal Le Monde ce matin, Laurent Follon envoyait un courrier à la procureure de Bobigny pour y dénoncer des abus sexuels subis entre ses 10 et 17 ans par le même homme, le plasticien Claude Lévesque, aujourd'hui visé donc par une enquête pour viol confiée à la Sûreté départementale de Seine-Saint-Denis. Les précisions de Cécile de Kervas-Douai.
Oui, ce que révèle l'enquête du Monde, hein, parue hier soir, ce n'est pas seulement une affaire de pédocriminalité concernant le plaignant Laurent Follon, mais tout un système complaisant vis-à-vis de Claude Lévesque. Et des témoignages se succèdent ce matin sur les réseaux sociaux qui racontent comment le monde de l'art contemporain semblait savoir, mais n'a rien dit. Et Laurent Follon confirme lors de son audition du 16 janvier 2020. « J'avais le sentiment d'être sa petite femme et que tout le monde savait que ça ne gênait personne. Les gens avaient l'habitude de voir Lévesque entouré de jeunes garçons. » Ce sculpteur et enseignant de 51 ans qui vit en Suisse raconte son passé de drogué, son frère aîné abusé lui aussi par Claude Lévesque et qui s'est tué par overdose en 1998. Il raconte surtout l'emprise du plasticien sur sa famille, comme s'il appliquait la recette publiée par Gabriel Matzneff dans son ouvrage « Les moins de 16 ans ». Il faut séduire la mère pour pouvoir avoir les enfants. Et c'est ce qui se passe dans ce foyer modeste de la Nièvre. Ébloui par la culture et par la générosité de l'artiste, la mère laisse partir ses enfants en week-end et en vacances, en tête à tête avec Claude Lévesque. Des baisers, des caresses et des viols, parfois quotidiens, qui pour l'homme en Folon dure de ses 10 jusqu'à ses 17 ans. Ce qui le pousse à porter plainte en 2019, c'est une rencontre avec une commissaire d'exposition qui lui parle de l'attachement de son fils adolescent pour Claude Lévesque, dont il est le parrain républicain. Laurent Folon comprend alors que si les faits sont prescrits pour lui, d'autres enfants peuvent être en danger. C'est ce que corrobore l'article du Monde, qui a rencontré un couple d'anciens amis de Claude Lévesque qui ont signalé à la justice le comportement de l'artiste avec un autre enfant lors d'un 31 décembre 2013, l'homme ne voulant pas laisser dormir l'enfant dans une autre chambre que la sienne. Même histoire encore lors d'un festival à New York et encore lors d'une exposition dans la Nièvre. Pour l'avocat de Claude Lévesque, c'est de la diffamation. Le ministère de la Culture a pour sa part procédé en novembre dernier à un signalement auprès du procureur de la République au titre de l'article 40 du Code pénal, sans pour autant donner de nom.
Merci Cécile de Carvaz-Douai. Jusqu'au bout, la figure anticonventionnelle, voire dysfonctionnelle de Donald Trump restera décidément comme un marqueur historique de la politique américaine cette semaine. Non seulement Donald Trump pourrait se retrouver sous le coup d'une deuxième procédure de destitution, mais également mise en accusation pour incitation à l'insurrection, ce qui dans un cas comme dans l'autre constituerait une première aux États-Unis. Alors dans un premier temps, les démocrates de la Chambre des représentants devraient voter ce lundi une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'invoquer le 25e amendement de la Constitution pour démettre Donald Trump de ses fonctions. Et puis, en cas de refus probable de la part de son colistier, alors une deuxième procédure dite d'impeachment sera introduite dans la foulée. Évidemment, on le sait d'ores et déjà, les chances d'aboutir sont plutôt minces. Même si les lézards ont tendance à s'agrandir dans l'entourage du milliardaire, est-ce que dans cette ambiance de fin de règne des plus chaotiques, eh bien, nombreux sont ceux à penser qu'une telle procédure diminuerait malgré tout le risque de voir Donald Trump commettre un mal irréparable avant la fin de sa présidence. En l'occurrence, depuis sa défaite, c'était le 3 novembre dernier, beaucoup redoutaient que le président Trump ne cherche à frapper un grand coup contre son ennemi juré, l'Iran, avant l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden. Et c'est ainsi que hier soir, à 10 jours de la fin de son mandat, le gouvernement de Donald Trump a annoncé qu'il allait inscrire les rebelles houthis du Yémen sur sa liste noire des groupes terroristes, qui non seulement risquent de compliquer donc une possible reprise du dialogue entre la nouvelle administration américaine et Téhéran, mais pire encore, cette décision risque surtout d'aggraver la crise humanitaire. Et pourquoi ? Parce que pour acheminer l'aide, les ONG doivent collaborer avec les houthis qui ont la main sur les principaux points de livraison des marchandises. Les précisions de Christian Chesneau.
Jusqu'à la dernière minute de son mandat, Donald Trump entend bien compliquer la présidence de son successeur Joe Biden, y compris sur les dossiers internationaux. Le classement des rebelles houthis et de 3 de leurs principaux dirigeants comme groupe terroriste est une bombe à retardement pour la nouvelle administration et un cadeau pour l'Arabie Saoudite, engagée militairement au Yémen depuis mars 2015. C'est aussi un message envoyé indirectement à l'Iran qui soutient les rebelles. Ces sanctions contre les houthis entreront en vigueur la veille de la prestation de serment du nouveau président Joe Biden. Une décision qui ne pourra que rendre plus difficile une sortie de crise politique. Les rebelles houthis tiennent toujours la capitale Sanaa et de vastes pans de territoire dans le nord du pays. Des miliciens qui n'ont pas été vaincus militairement. Ils contrôlent encore le port d'Odeida sur la mer Rouge, principal point d'entrée de l'aide humanitaire. S'il était mis sous embargo à cause des nouvelles sanctions, la population pourrait s'enfoncer encore davantage dans la pauvreté, la famine et le sous-développement. Aujourd'hui, 80% de la population yéménite dépend désormais de l'aide internationale et l'ONU a qualifié de pire crise humanitaire au monde la situation au Yémen. Bref, les nouvelles sanctions américaines ne vont pas améliorer les conditions de vie de la population et certaines ONG dénoncent déjà une forme de punition collective.
Participer à la construction de la mobilisation, c'est ainsi généralement que sont présentés chacun des grands sommets internationaux censés réfléchir aux enjeux climatiques, avec toutefois une question là aussi souvent la même pour aboutir à quels engagements concrets. La 4e édition du One Planet Summit organisée aujourd'hui par la France ne dérogera donc pas à la règle, même s'il pourra toujours prétexter en l'occurrence de vouloir relancer cette fois-ci une diplomatie verte mise à l'arrêt par la pandémie de Covid-19. Et parce que face aux épidémies comme au réchauffement, la préservation de la biodiversité fait figure d'assurance vie collective. Eh bien, cette 4e édition, Véronique Robérot, sera essentiellement consacrée à la préservation des écosystèmes.
Protéger la biodiversité pour mieux préserver la santé des animaux et au final celle des humains, ce One Planet Summit entend marquer le lien entre déforestation, urbanisation, préservation des espèces et santé humaine. C'est le concept « une seule santé ». La France et l'Allemagne présenteront leur programme, baptisé Présode, doté de 350 millions d'euros pour tenter de prévenir de futures pandémies en lien avec le monde animal. D'actualité pour relancer une diplomatie verte à l'arrêt à cause du Covid-19. Initiative forte, dit le chef de l'État, qui promet d'autres coalitions d'action. Une trentaine de personnalités vont s'exprimer, la grande majorité en visioconférence. 12 prendront un engagement quant à la protection de la biodiversité, assure l'Élysée. Plusieurs initiatives internationales seront lancées ou renforcées autour de la Grande Muraille Verte en Afrique. La coalition pour une mer méditerranéenne exemplaire en 2030 sera également présentée, ainsi qu'une coalition pour la convergence des financements climat et biodiversité. Enfin, la coalition de la haute ambition pour la nature lancée par la France et le Costa Rica devrait recruter et atteindre une cinquantaine de membres. Elle défend la mise sous protection de 30% des espèces terrestres et maritimes d'ici 2030. Emmanuel Macron devrait ainsi confirmer l'engagement de la France à atteindre 30% d'air protégé, mais d'ici 2022, dont 10% sous protection forte, sans plus de détails géographiques, sans garantie non plus que les engagements pris aujourd'hui aillent au-delà des beaux discours. C'est parfois le cas en matière de promesses environnementales.
Et quand l'on parle désormais transition économique, c'est évidemment l'objet de notre nouvelle chronique Demain l'écho chaque lundi. C'est avec vous, Annabelle Grolier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'une néobanque baptisée Helios, qui n'est d'ailleurs pas la seule sur le marché, puisque depuis quelques années déjà, c'est une véritable déferlante d'offres qui inonde le marché bancaire français et européen. Sauf que si jusque-là, il s'agissait surtout pour la fintech de proposer des banques mobiles, digitales, plus adaptées en somme aux pratiques et aux besoins des jeunes, et bien aujourd'hui, une nouvelle tendance émerge, donc inspirée de la finance éthique, ou quand, en plus d'être innovante, la néobanque devient aussi verte et responsable, bousculant ainsi un peu plus encore, Annabelle, les banques traditionnelles.
Alors, face à cette multitude d'offres de banques digitales, il faut surtout chercher à comprendre quelles sont les banques derrière ces néobanques. Je ne citerai pas les noms, quelques-unes sont certes indépendantes, mais elles sont nombreuses à travailler avec des acteurs de la fintech qui appartiennent en fait aux banques traditionnelles que nous connaissons tous, la Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, bref, les quatre sœurs, comme on dit, qui se partagent le plus gros du marché bancaire français. Le problème est que ces banques sont régulièrement critiquées et décriées par les ONG pour encore trop souvent placer l'argent de leurs clients, dans les énergies fossiles ou les industries polluantes. Donc l'innovation, au-delà d'être technique pour une néobanque comme Helios, c'est de dire, nous, votre argent, nous ne le ferons pas prospérer sur des industries polluantes, mais au contraire sur l'économie durable, sur des entreprises éthiques, environnementales et sociales que nous allons choisir ensemble via l'application ou les chats au sein de notre communauté client. Mais ce n'est pas si simple parce que le plus dur pour ces jeunes banques est d'obtenir une licence bancaire. En France, c'est quasiment une chasse gardée pour le lobby bancaire en lien avec l'inspection des finances. Ce sésame se donne au compte-gouttes de ces 10 dernières années. Pour vous donner une idée, la NEF, première et jusqu'ici seule banque totalement éthique en France, existe depuis plus de 30 ans et ne l'a toujours pas obtenue. Alors l'innovation de ces jeunes fondateurs d'Helios est donc de s'appuyer sur la législation européenne. Ils sont allés trouver un partenaire allemand pour louer sa licence bancaire et garantir la transparence de ses placements. Ils vont donc bientôt pouvoir offrir la possibilité aux Français d'ouvrir des comptes courants et d'obtenir une carte bancaire.
Merci Annabelle Grolier. Il avait tenu le cap pendant près de 40 ans à la barre du magazine télévisé consacré à la mère Thalassa. Le journaliste Georges Pernoud est décédé ce matin à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. Passionné de la mer, il avait créé ce magazine à la longévité exceptionnelle qu'il avait lui-même animé. C'était entre 1980 et 2017, autant dire Maïwenn Bordron. C'est une figure du paysage audiovisuel qui disparaît.
Georges Pernoud a tenu la barre de ce magazine emblématique sur France 3 pendant 42 ans. Il n'était pas marin, mais il s'est découvert une passion pour la mer lors d'une course autour du monde à la voile en 1973. Georges Pernoud sent alors qu'il y a un créneau à prendre sur les sujets maritimes très peu abordés à l'époque. En 1975, il propose ce projet d'émission à la direction de FR3, d'abord en voix off, puis il présente Thalassa à partir de 1980 avec un générique qui devient rapidement culte. L'émission hebdomadaire à ses débuts propose des documentaires et des enquêtes de qualité sur le monde de la mer. Georges Pernoud était un ancien cadreur, il était donc très attaché à la beauté des images, mais pas seulement. Un des journalistes qui a travaillé avec lui pendant de nombreuses années et que nous avons contacté souligne qu'il accordait beaucoup d'importance aux histoires, aux témoignages de ces hommes et de ces femmes qui font le monde de la mer. En 1992, un des documentaires de Thalassa autour d'une goélette appelée Le Grand Spoons remporte même le prix Albert Londres audiovisuel. Le magazine de la mer perd malgré tout des téléspectateurs au fur et à mesure des années. À partir de 2011, l'émission hebdomadaire est proposée 3 vendredis sur 4. Puis, en 2016, elle n'est diffusée qu'une seule fois par mois. L'année suivante, Georges Pernoud quitte Thalassa. Il sent qu'il va être poussé vers la porte de sortie par la direction et préfère prendre les devants. Pour sa dernière émission, le 30 juin 2017, il avait choisi de poser l'ancre à Saint-Malo, en Bretagne, pour faire ses adieux.
C'est avec une très grande émotion et de tout cœur que je vous souhaite à toutes et à tous bon vent.
Et je précise que France 3 consacrera une émission spéciale à Georges Pernoud vendredi prochain. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par le retour du soleil en montagne ainsi que sur le pourtour méditerranéen. Partout ailleurs, le temps restera très nuageux avec quelques gouttes de la Bretagne, des pays de la Loire et du Poitou à la frontière belge. Quant aux températures, elles afficheront entre 1 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.